Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la conversion du geôlier philippien. Après la conversion de Lydie, que nous avons vue dans notre dernière étude, Paul et ses compagnons sont restés dans la ville de Philippe pour continuer à évangéliser. Alors une femme, possédée d'un esprit qui lui permettait de faire de la divination, se mit à les suivre, tout en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Cela était bien vrai, mais comme elle a fait cela pendant plusieurs jours, le bruit ne favorisait pas leur prédication. Finalement, Paul était tellement irrité qu'il se retourna et chassa le démon de la femme. Or, cette femme était une esclave, et ses maîtres se faisaient de l'argent grâce à la divination qu'elle faisait. Voyant disparaître leur source d'argent, ces hommes étaient mécontents, et se sont saisis de Paul et de Silas, les traînant devant les magistrats de la ville, et faisant de fausses accusations qui n'avaient rien à voir avec le fait qu'ils avaient chassé un démon. Sans écouter les accusés, les magistrats les ont fait battre de verges et les ont remis au geôlier, lui disant de les garder sûrement. Il les a donc mis au fond de la prison, et pour les faire souffrir davantage, il leur a fixé les pieds dans des blocs de bois, les jambes écartées. Lisons la suite du récit en acte 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Nous ne connaissons rien du caractère et de la vie du geôlier en dehors de cette histoire. Nous savons que Saul de Tarse avait été zélé et sincère dans le judaïsme, au point de persécuter à la mort ceux qu'il croyait être dans l'erreur. Corneille était pieux, généreux, un homme de prière et adorateur du vrai Dieu. Lydie était une femme religieuse aussi, délaissant son commerce le jour du sabbat afin de prier Dieu et écouter sa parole. Le geôlier, par contre, était sans doute un païen. En vue de son métier, on supposerait qu'il n'était pas particulièrement tendre et sensible aux souffrances des autres, mais il a accepté l'Évangile avec un grand empressement. Trois facteurs ont probablement contribué à préparer son cœur. Premièrement, il était sûrement au courant du fait qu'une femme clairvoyante, à cause de l'esprit impur en elle, avait suivi Paul et ses amis en disant à quiconque voulait entendre que ces hommes étaient serviteurs du Dieu Très-Haut et annoncer la voie du salut. Deuxièmement, il avait vu le courage et la paix intérieure avec lesquels Paul et Silas avaient subi le mauvais traitement qu'on leur avait infligé. Il avait peut-être même entendu les louanges que les frères chantaient dans leur cachot. Il se serait sûrement demandé pourquoi ces hommes pouvaient garder non seulement le courage, mais même la joie dans de telles épreuves. Troisièmement, il y eut ce bizarre tremblement de terre, qui n'avait pas fait écrouler le bâtiment, mais qui avait fait ouvrir les portes de la prison et rompre les chaînes qui liaient chaque prisonnier. Il savait que ce tremblement de terre n'était pas un hasard, pas un événement naturel, mais un miracle du Dieu Très-Haut que Paul et Silas servaient. Ce n'est pas vraiment étonnant que cet homme demande à ceux qui prêchaient depuis plusieurs jours dans la ville la voie du salut, « Seigneur ou messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. Au premier abord, cette réponse ne semble pas tout à fait conforme à ce que nous avons vu dans le reste du livre des Actes. Elle semble au contraire s'accorder très bien avec les dires de ceux qui prêchent que l'on est sauvé par la foi seule. En fait, ces personnes citent ce verset très souvent comme une preuve indiscutable qu'elles ont raison, que tout ce que le pécheur doit faire pour être sauvé, c'est de croire en Jésus. Pourtant, nous avons bien vu en étudiant les autres conversions dans le livre des Actes qu'en plus de la foi, les apôtres ont enseigné que la repentance, la confession de foi et le baptême sont aussi des conditions du salut. Le geôlier n'avait-il pas besoin de faire ces autres choses pour être sauvé? Au moins deux explications sont bien valides. La première est que Paul et Silas emploient la phrase « croire au Seigneur Jésus » pour résumer ou englober tout ce que l'on doit faire pour devenir chrétien. Très souvent, on emploie des expressions où un seul élément désigne un ensemble de choses. Par exemple, on dit qu'il y avait 200 têtes à la réunion. En réalité, il y avait bien sûr 200 personnes tout entières, et non seulement leur tête. Mais dans cette phrase, une partie, la tête, représente le tout, la personne. Pareillement, on entend parfois cette prière. Merci Dieu pour ce repas et pour les mains qui l'ont préparé. Encore, les mains désignent non les mains seules, mais les personnes qui ont préparé le repas en question. On peut dire qu'un homme gagne son pain grâce à telle ou telle activité. Le mot « pain » représente dans ce cas non seulement le pain, mais tout ce dont l'homme a besoin pour sa vie. La foi est un élément très à propos pour se référer à tout ce qui fait partie de la conversion. Après tout, elle est la base de ce qui doit suivre. C'est une foi vivante qui pousse l'homme à remplir toutes les conditions du salut. Et sans la foi, les autres étapes n'auraient aucune efficacité pour le sauver. Mais d'autres termes servent parfois à résumer le même processus du salut. En Acte 11, verset 18, les Juifs qui venaient d'entendre le récit de la conversion de Corneille, le premier non-juif à se convertir, ont dit « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ils n'ont mentionné ni la foi, ni le baptême, mais d'autres versets nous informent que Corneille et ses amis ont cru et ont été baptisés. Comme le mot « foi » en d'autres passages, c'est le mot « repentance » qui est employé ici pour résumer la conversion ou l'obtention du salut. Le verset suivant du texte en Acte 16 soutient l'idée que « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » était une sorte d'introduction ou résumé qui serait approfondi par la suite. Ce verset dit « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. » Une autre explication valide de l'expression « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » est que Paul et Silas commençaient simplement par le commencement. Ils répondent en fonction de l'état de leur interlocuteur. La question « que dois-je faire pour être sauvé ?» est posée trois fois dans les actes. Chaque fois, la réponse est différente. En acte 2, verset 38, Pierre répond à la question en disant « repentez-vous ». Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. En Acte 16, verset 31, Paul et Silas répondent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et en Acte 22, verset 16, Saul de Tarse reçoit la réponse « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. » La réponse dépend chaque fois de ce que la personne qui écoute a déjà fait. Pierre n'avait pas besoin de dire à ceux qui venaient de l'écouter le jour de la Pentecôte de croire en Jésus, parce qu'ils avaient évidemment accompli cette étape. Saul de Tarse, pour sa part, avait déjà cru et s'était repenti. Ananias n'avait plus besoin que de lui dire d'être baptisé. Le geôlier philippien, par contre, ne savait pas encore ce qu'il fallait croire, ou celui en qui il fallait croire. Paul et Silas avaient besoin de poser un fondement avant de lui parler de repentance et de baptême. La foi doit précéder ces autres étapes. Très naturellement, donc, il commence par son besoin de croire. Supposez qu'une personne vous demande ce qu'elle doit faire pour devenir médecin. La réponse dépendra de la situation de la personne qui demande. Si elle a déjà une licence en biologie, on lui dira peut-être de présenter sa candidature à une bonne école de médecine. Si la personne est encore en classe de terminale, on lui dira d'obtenir son bac et de s'inscrire à l'université en biologie. À l'enfant qui est encore au cours primaire et qui veut être médecin, on lui dira simplement de bien travailler pour être admis au collège. Toutes ces réponses sont différentes, mais elles sont justes. Elles sont différentes parce qu'elles dépendent de ce que chaque personne qui pose la question a déjà fait. Le geôlier a reçu une réponse qui convenait à sa condition spirituelle. Ce n'est pas qu'il pouvait être sauvé sans se repentir ou sans se faire baptiser. En fait, la suite de l'histoire montre non seulement que cet homme s'est repenti et s'est fait baptiser. Elle montre qu'il y avait une urgence dans l'accomplissement de ces choses. Les versets 33 et 34 disent « Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. » Rappelez-vous que le tremblement de terre avait eu lieu vers minuit, mais le geôlier n'a pas attendu le jour pour être baptisé. À plus forte raison, il n'a pas attendu un jour de fête pour être baptisé avec plusieurs autres personnes dans une cérémonie plus grande et impressionnante. Bien qu'il soit un païen qui n'avait même pas de connaissance préalable du christianisme, on ne le fit pas attendre pour qu'on l'observe et lui enseigne en long et en large la parole de Dieu avant son baptême. Tant qu'il n'avait pas été baptisé, il n'était pas encore sauvé. Où êtes-vous sur le chemin du salut? Avez-vous déjà écouté attentivement l'Évangile? Avez-vous cru en Jésus, le Fils de Dieu? Vous êtes-vous repenti de vos péchés? Avez-vous dit devant les hommes que vous croyez en Jésus? Et avez-vous été immergé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Ne remettez pas votre obéissance jusqu'à demain. Le geôlier obéit la même heure de la nuit.
Ta main m'enivre, tranche d'oreille, et notre vie en ces premiers jours. Vite les pages sont enterrées, qu'écrirons-nous au long de son cours? Dieu met son trésor, son évangile, en de vils coffrets des cœurs humains, en de tout frêles vases d'argile, son évangile est entre nos mains. Autour de nous, des hommes par mille sont perdus sans Christ et sans espoir. Nous ne pouvons garder l'Évangile sans l'offrir à qui peut le vouloir. Dieu met son trésor, son Évangile en de vils coffrets des cœurs humains, en de tout frêle vase d'argile, son Évangile est entre nous.